Bienvenue à Montréal. Ce soir, vous allez avoir le bonheur d'avoir Patrick dans vos oreilles en tant qu'animateur, mangeur de poutine et producteur. Donc oui, ce soir, nous revenons au format traditionnel. Le party Noël était très plaisant, mais il faut revenir à notre set initial parce que bon, ça doit être un peu la raison pourquoi vous êtes avec nous ce soir. Donc ce soir, je vais faire une entrevue avec Ulrich Corbeil-Trudel. Ulrich est cofondateur, président et compositeur chez Pixel Audio à Montréal. Comme vous pouvez vous douter, Pixel Audio œuvre évidemment dans le domaine de l'audio. Pixel Audio est tout simplement une compagnie avec laquelle vous faites affaire pour créer soit du design sonore dans votre jeu ou de la composition musicale. Ceux qui nous suivent depuis un certain temps, c'est-à-dire qui écoutent Les Jeux sont faits, savent que nous avons déjà discuté avec Ulrich. Ça fait maintenant 3 ans et quelques mois, donc ce soir, ça va être une opportunité de reparler à Ulrich, cette fois-ci, souhaitons-le, de choses différentes. À titre de référence, lorsque nous l'avions reçu à Les Jeux sont faits, nous avions parlé vraiment du boulot de concepteur sonore, on avait parlé de qu'est-ce qui est composé pour le jeu vidéo versus les films et ainsi de suite. Donc, bien évidemment, si vous êtes intéressé par ce métier, on vous encourage très fortement à écouter l'épisode 19 de Les Jeux sont faits. Le lien sera disponible notamment sur Radio Kawa. Clin d'œil, clin d'œil. Donc ce soir, oui, il y a une volonté de mon côté de différencier cette interview de celui qu'on avait fait avec Les Jeux sont faits. Donc, qu'est-ce que je pensais faire de mon côté? C'est d'abord de parler d'une opportunité qu'on avait un peu loupée dans l'entrevue précédente, c'est-à-dire parler des influences. Donc, du côté d'Ulrich, il va évidemment avoir des influences autant du côté musical que du côté jeu vidéo. Je veux parler de ça pour sûr. Aussi, on ne se le cachera pas, l'interview précédente a été faite en 2014, nous sommes rendus en 2017. J'ose croire que quelques trucs se sont passés dans la carrière d'Ulrich. Ça me tente de parler de ça. On va parler aussi de l'évolution de Pixel Audio. Le marché a évolué, le marché a changé, donc on va parler de ces points-là. Et au-delà de ça, comme d'habitude, j'essaie d'avoir une position d'ouverture. Si quelques points intéressants se manifestent, bien évidemment, nous allons les décortiquer. Sur ça, je dois vous avouer que les 4 dates que j'ai consommées il y a quelques heures commencent à être très loin, je commence à avoir faim. Donc, je vais mettre mon enregistreur dans mon sac et je me dirige vers le métro. Donc, nous voilà déjà au Hippie Poutine avec, ma foi, quelle coïncidence, Ulrich Corbeil-Trudel. Est-ce que ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Bon, on va être transparent face à l'auditoire actuellement. T'as déjà fait tes choix de poutine?
J'ai déjà fait mon choix de poutine.
Ouais, tes choix, comme tu t'en prendrais 4. Pardonne-moi ma grand-mère, mais parle-moi de ton choix de poutine.
Oui, je vais juste être capable de manger une poutine, malheureusement, ce soir, parce que tout avait l'air super bon. Mais j'ai pris quelque chose avec une sauce béchamel, étonnamment.
Oui, et du saumon aussi.
Oui, et du saumon. Ça va être une première.
OK, moi, de mon côté, j'ai pris la Glasgow. Je l'ai bien prononcé cette fois-ci.
Oui. Ouais.
Donc, beaucoup de viande. C'est une poutine qui revenait assez souvent dans le show parce qu'elle était très, 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 très viandeuse. Moi, mon dîner est quand même assez loin, tandis que toi, tu m'as expliqué, c'est quand même assez récent.
Oui, j'ai malheureusement pris un dîner à 4 heures constitué de pâtes, de fromage et de sauce.
C'est aussi ça, être professionnel, les amis.
Oui, c'est ça. C'est manger 2 fois très rapproché.
Oh là là. Bon, au moins, ça te prépare pour l'hiver, ça va faire des réserves, ça va avoir son utilité. C'est quand même bien.
Ouais, j'ai déjà commencé ça.
Ben, garde, comme je l'ai dit dans l'introduction, bon, on t'a déjà reçu à Les Jeux sont faits,
oui.
Épisode 19, on revient là-dessus. C'est une entrevue, ça me tente pas vraiment de parler vraiment du, pardonne-moi l'anticisme, nitty-gritty de ton travail, on l'avait déjà couvert. Cette fois-ci, je trouve qu'on a une belle opportunité parce que ça avait été enregistré en 2014. Entre-temps, je crois qu'il est arrivé 2-3 bricoles dans ta vie professionnelle. Donc, on va peut-être parler de cette évolution-là, mais une affaire que j'avais quand même loupée dans l'entrevue, honte à moi, c'est vraiment de parler de tes influences autant du côté jeux vidéo que côté musique.
Oui.
Es-tu à l'aise de parler de ça publiquement, Luric?
Oui, oui, certainement.
Très bien.
C'est sûr que moi, côté musique, je suis un enfant du rock. J'ai écouté beaucoup de musique alternative. J'ai une formation de guitariste. Puis j'ai joué beaucoup de guitare électrique. Fait que c'est des bands comme Smashing Pumpkins, Nirvana, Weezer. Ça a été vraiment ça ma grosse influence. Fait que je dirais, mais en même temps, je me suis vraiment ouvert. Mais en fait, non, j'ai toujours écouté beaucoup de musique, mais plus je vieillis, plus j'écoute, on dirait, plus il y a des groupes qui rentrent dans ma vie. Fait que j'écoute beaucoup d'électro. Dernièrement, j'écoute le dernier album de Banks en boucle, constamment, je capote là-dessus. Puis je trouve ça le fun parce que l'électro, ça recoupe un peu, justement, le design sonore. Il y a beaucoup de temps mis sur chacun des sons. T'sais, il y a bien des tunes qui vont avoir des fois 3, 4, 5 sons quasiment, mais ils vont avoir tellement porté attention à ces sons-là qu'ils sont extrêmement riches et ils n'ont pas besoin finalement d'avoir plein de choses autour. En même temps, c'est vrai, le grunge, c'est peut-être un peu ça. En m'écoutant, je me dis, ah oui, c'est vrai que quand un groupe juste bass, drum, git, c'est un peu ça aussi, d'avoir des éléments essentiels qui sont très forts, qui sont très iconiques. De faire une pièce avec ça. Mais ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr, quand j'étais jeune, j'écoutais les Beatles à côté. Et le premier album cassette, ça a été l'album blanc des Beatles. Puis, je vois un peu de classique aussi. J'ai toujours aimé la musique classique. Là. Tout ce qui est... Tantôt, on parlait là, d'un spectacle de musique, puis de la musique de Noël, tout ça. Puis, il y avait un prof, quand j'étais au cégep, qui avait dit, il y a juste deux styles de musique, il y a de la bonne puis de la mauvaise musique. Je vois que c'est un drôle de commentaire à l'époque, mais en vieillissant, je pense que c'est un peu ça aussi. C'est de la musique que tu trouves qui est faite de façon intelligente. T'sais, j'aime ça écouter de la musique de Noël aussi, dans le fond, quand c'est bien fait. Puis quand c'est des bons musiciens, les arrangements sont bons, ça peut être merveilleux. T'sais. Fait que, ouais, plus vieilli, on dirait qu'il y a comme moins de style. Mais j'aime beaucoup quand même ce qui est très agressif, ce qui a beaucoup de poids. T'sais. Puis pour le sound design, c'est un peu la même chose aussi. T'sais. J'aime les petits trucs raffinés, mais en gros, j'aime ça, les sons qui déchirent l'écran. Puis dernièrement, j'ai écouté sur Netflix Fate, t'sais, la série les animés. T'sais. Là, je sais plus, je pense que c'est Apocryphe, là, un des derniers, en tout cas, que j'ai vu. Puis j'écoutais le sound design, puis c'est toujours une espèce de coup de poing d'en face épouvantable. Ça déchire au complet. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Là.
Est-ce qu'on pourrait tracer un peu un lien, peut-être, entre tes préférences en jeux vidéo aussi? Parce que qu'est-ce que tu parles comme sound design? Tu te dis que c'est très présent dans l'animé, mais c'est aussi très présent dans le jeu vidéo, particulièrement du côté du Japon.
Oui, tout à fait. Justement, j'ai recommencé une nouvelle game de Bloodborne il y a peut-être 2 semaines. Puis, j'ai remarqué à quel point, justement... C'est drôle, eux ils n'ont pas nécessairement beaucoup de... Ils n'ont pas beaucoup d'itérations du même son, mais ils vont avoir des sons très forts, très intenses, tout ça. T'sais, Metal Gear Solid, on retrouve la même chose. J'avoue que dernièrement, c'est le jeu qui m'a... fait capoter sur le sound design, c'est Horizon Zero Dawn.
Oui.
Tout est bon. J'aime ça passer au travers des feuilles. C'est con. Je marche, je passe au travers des feuilles, puis il y a des espèces de... Il y a des hautes herbes, dans le fond, où tu te caches, tout ça. Puis juste quand t'es là-dedans, ça me fait triper. Ça fait chier.
Non, puis même d'une perspective narrative, et ça déborde dans la musique aussi, je trouve qu'il y a une espèce de dualité un peu étrange entre le trait tribal, l'homme des cavernes, ainsi de suite, et le trait technologique. Et bon, ironiquement, c'est les animaux préhistoriques qui sont technologiques et vice-versa.
Ouais, ça, c'est très...
Et ça se reflète notamment dans la musique au début. Ouais. Bon, visuellement, je trouvais ça intéressant, mais il y a bien des aspects dont la musique, je me disais, ah, ça va être ringard assez rapidement, ça va être du Daft Punk des pauvres dans Tron ou quelque chose de même. Mais finalement...
Mais c'est tellement pas ça. Ah non, c'est ça. Il y a de tout. Il y a des instruments acoustiques, mais un bon mélange avec l'électron. En fait, tout ce jeu-là, on sent tellement d'amour et d'attention dans tous les détails. Même le système de musique n'est pas super compliqué, mais il est bien fait. Il est transparent. On le voit pas. On le sent pas dans le jeu. On fait pas « Oh mon Dieu, OK, là, on est dans un combat. Là, on sent tout le temps. » Ça coule. On est dans des environnements où... pendant longtemps, on peut se promener, puis oups, des fois, il va y avoir quelque chose, mais on n'est pas en train de beurrer de musique là, constamment. Puis quand t'es là, juste bien à point. C'est juste un beau mélange, justement, là, d'électro, de thème, de... Ouais. J'aurais trippé à travailler sur ce jeu-là. J'aurais bien aimé ça.
Si on y va dans une époque un peu plus classique, bon, on l'avait déjà mentionné dans l'épisode précédent, t'avais quand même grandi avec des jeux.
Ouais.
De ton côté, en tant que joueur, puis peut-être en tant que personne sensible à la musique, mm-hmm. quels sont les jeux qui t'ont marqué de la période, on pourrait dire, un peu plus classique, 8-bit, 16-bit?
Ben, c'est Final Fantasy VII, où j'ai vraiment découvert... J'ai découvert de un l'univers des RPG. J'avais jamais joué à des jeux RPG à ce moment-là. Puis c'est ça, dans ma jeunesse, j'ai pas joué à énormément de jeux. C'est-à-dire que, disons, avant mon adolescence, j'ai pas joué énormément à des jeux. Donc, tout ce qui s'est passé sur Nintendo, Super Nintendo, j'ai pas vraiment connu. J'ai connu chez des amis des fois la fin de semaine, mais c'est tout. Fait que, tu sais, quand on parle de Castlevania, quand on parle de. Tous les jeux de cette période-là, je les ai reconnus sur le tard, dans ma vie professionnelle, où j'étais allé voir, par exemple, sur YouTube, du gameplay pour écouter, pour voir qu'est-ce qui s'était passé, mais c'est tout. Sinon, c'est ça, vraiment, ça a été Final, puis à partir de là, ben là, j'ai joué Final 7, 8, 9, 10, 11, 12, à côté. Puis, ça a été pas, je te dirais, ça a été pas mal ça. J'arrive pas à me rappeler. Pourtant, j'en ai joué des jeux. Mais Silent Hill. Hill, ça, c'est la musique qui m'a quand même... que j'ai trouvé vraiment intéressante à l'époque. Puis, tu vois, je me rappelle pas de grand-chose, mais je me rappelle que ça m'avait marqué. Peut-être les Resident Evil aussi. Tu vois, la musique d'horreur ou qui apporte vraiment un élément narratif, mais d'atmosphère, puis très, très fort. Puis que, à la limite, si t'enlèves la musique, ça peut... Puis ben, si t'enlèves les ambiances aussi, tu sais, c'est vraiment plus le même thrill de te promener dans Resident Evil puis t'enlèves ça. Là. Mais ouais, je vois comme pas d'autres jeux quand j'étais jeune, là, du moins, là, qui m'ont marqué de point de vue musical. Là. C'est vraiment plus vieux dans le fond que.
Ça très fascinant. Je serais curieux d'avoir peut-être ta lecture de la chose en même temps. Je ne sais pas à quel point t'es un historien de la musique, des jeux vidéo et Alouette, mais. Tous tes exemples, tu as dit, c'est japonais. J'ai déjà aussi eu des discussions même avec mes collègues de travail. Ouais. Tous les thèmes classiques de notre enfance, c'est soit du Nintendo, soit Megaman aussi, dans le rock, c'est fantastique. Castlevania, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait du côté des Japonais de captivant à cette époque-là qu'on n'avait peut-être pas du côté de l'Occident, mais merde, ces thèmes-là étaient marquants.
Oui, ces thèmes-là étaient marquants. Je sais, en effet, il faudrait voir parce que non, je ne suis pas assez calé là-dedans, mais... C'est sûr que d'avoir des thèmes qu'on peut se rappeler, c'est à savoir, est-ce que les jeux produits aux États-Unis avaient le même souci au niveau mélodique? Je sais pas. Mais c'est clair que c'est ça qu'on a retenu, c'est les thèmes de ces musiques-là. T'sais. Peu importe ça serait quoi l'arrangement, les thèmes étaient fabuleux. Les thèmes étaient juste comme... Puis j'imagine que le fait de ne pas avoir grand-chose, dans le sens que tu n'as pas un orchestre où c'est possible... Bon, Final, on est déjà un peu à une autre époque, mais quand même, tu n'es pas enregistré avec un orchestre à ce moment-là, tu sais, du moins. Fait que, mais mettons, je pense à Mario, puis où là, c'était extrêmement limité dans le nombre d'instruments, dans tes instruments, ils sonnent comment, fait que tu es obligé de faire avec... Peut-être qu'à ce moment-là, c'était la seule possibilité, finalement, c'était de faire des mélodies, je sais pas.
Non, c'est ça. On va essayer des parallèles ce soir. Peut-être que je vais me péter la gueule, mais du côté des Japonais, notamment, bon, je suis plus du domaine du visuel, c'est de notoriété quand même publique. Eux autres avaient vraiment le manga, tout ça. Oh, la poutine vient d'arriver.
Merci bon beaucoup. Appétit.
Merci. Merci. On va parler de la poutine, c'est devant toi actuellement. Qu'est-ce que ça te dit?
Ça me dit un morceau de saumon fumé.
Oui.
Avec un morceau de saumon cuit dans la poêle, probablement. Béchamel, fromage, quelque chose que je ne peux détecter, et des oignons. Évidemment, des frites juliennes. Ça a l'air magnifique.
Très bien. Regarde, qu'est-ce que je te propose, c'est mon parallèle douteux. On va suspendre un instant, on va manger un peu, et puis ensuite on va reprendre.
Génial.
Donc oui, nous voilà de retour en cycle de digestion actuellement, Ulrich.
Oui, clairement. Oui.
Est-ce que ça va bien?
Oui, oui, ça va bien.
Parle-moi de tes impressions de poutine. Comment as-tu vécu ça?
Ah, j'ai malheureusement trop mangé avant de venir ici, mais c'était excellent. Tu vois, il y a toujours la question de la frite.
Oui, oui.
C'est quand même beaucoup la frite. Ben la sauce, évidemment, il est pour quelque chose, mais la frite va quand même faire la poutine. T'sais. Ici, ils ont des vraies juliennes qui ont faites ici, sur place. Ça fait toute la différence. Elle était super bonne, vraiment. Ouais,
vraiment, parce qu'il y avait quand même des trucs rosés. On parle de deux types de saumon, de la béchamel.
Ouais. Ouais, ouais. Puis on s'entend, je l'ai vu dans le menu, puis je me suis dit, ah, j'ai pas trop faim, c'est pas grave si c'est pas bon. Là.
Oh boy!
Non, mais je trouvais que ça avait l'air super. Je trouvais que ça avait l'air intéressant, mais j'étais pas nécessairement vendu à l'idée, puis ouais, j'étais agréablement surpris.
Non, certes, il y avait une certaine ambition dans les choix. Tu fais comme, ça pourrait mal virer, ouais, mais on va regarder. Ça, puis... ouais. Très rassurant, très rassurant.
Ouais. De petite place.
On la recommande, on la recommande.
Oui.
Hey, on va continuer avec mon parallèle douteux, finalement, que j'ai quand même explicité pendant le repas, mais bon, on va le répéter, histoire de ne pas priver nos auditeurs et auditrices de ça. Qu'est-ce que je trouvais très intéressant du Japon? C'est souvent que j'ai l'impression que la culture visuelle a été vraiment basée sur des contraintes. Donc, c'est pour ça, souvent, que les Japonais, à mon avis, dans les années 80-90, les visuels étaient très clairs, nets et précis. Les expressions des personnages étaient claires. C'est né probablement du manga, le manga qui était des fois tiré dans des formats vraiment à pas cher, avec peu de pages, ainsi de suite. Donc, il y avait vraiment un besoin d'efficacité. Et le langage visuel qui a été bâti là-dessus a sûrement alimenté les créateurs de jeux vidéo de la première génération. On parle années 70-80. Je suis en train de me demander si musicalement, il n'y aurait peut-être pas eu la même raison pourquoi il y avait une nécessité du côté du Japon de frapper fort, de frapper vraiment de manière efficace dans un tout court format, exemple un thème.
Je vais te répéter un peu ce que j'ai dit tantôt. Je pense que c'est ça, c'est un. C'est une frange de la culture japonaise que je connais un peu, mais je connais pas tout le reste de l'ensemble. C'est difficile pour moi de dire quelles ont été les influences précises. Comme pour le manga, on se rappelait tantôt des animés de notre enfance. Il y en a beaucoup qui sont japonais. Il y avait toujours cette force-là quand même, des termes très forts, des termes qu'on se rappelle. Mais il y a probablement juste dans le langage, dans le fond, utilisé, au-delà de est-ce qu'ils ont utilisé plus de mélodies que les jeux américains à cette époque-là. Ça, j'aurais de la difficulté à dire, comme on disait, mais le langage de leur mélodie, par contre, il est fort probablement teinté, justement, de la culture japonaise. Puis on a parlé un peu de jazz tantôt, puis je pense que ça c'est bon à noter, c'est que les Japonais aiment beaucoup le jazz. C'est un style qui a bien fonctionné là-bas, qui fonctionne encore bien. Puis je pense qu'on le voit dans les thèmes. Je pense qu'il y a des... On parlait tantôt un peu Mario, des emprunts, dans le fond, d'un langage, un vocabulaire qui est pas... C'est pas nécessairement une pièce jazz, mais il y a un certain vocabulaire qui est emprunté là, dans le fond, au jazz. Puis on parlait de Gran Turismo, mais il y a plein de jeux, même modernes, des RPG, où on va se promener dans le monde, où il va y avoir une petite musique jazzy, tu sais, parce que c'est pas purement du jazz, mais oui, juste peut-être un peu le ben, même dans Final Fantasy, mais
oui.
Tu vois, dans des menus, etc., c'est genre du jazz, pop, heureux mélange avec des éléments électro un peu quétaine en même temps, mais tu sais, c'est toujours la question, là. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a dû avoir il y a quelque chose qui s'est passé avant, dans le fond. Tu sais, c'est pas apparu de nulle part, dans le fond, d'avoir des thèmes forts puis des thèmes qui sont quand même... qui sont iconiques puis qui sont particuliers au jeu japonais. Mais oui, ça serait une belle recherche à faire, dans le fond, à savoir qu'est-ce qui s'est passé musicalement puis c'est quoi exactement les influences des premiers compositeurs au niveau du jeu vidéo. Est-ce qu'ils sont allés à l'université puis eux, justement, ils ont étudié... je sais pas, classique, jazz.
Ça va être intéressant aussi l'autre influence qu'on avait parlé justement dans le contexte des consoles des années 80-90. On ne se le cachera pas, la grosse majorité des compagnies japonaises qui ont publié des jeux se sont d'abord faites les dents sur les bandes d'arcade, puis on se le cachera pas non plus. Les bandes d'arcade, la mission numéro un, c'est d'attirer le regard, attirer les oreilles, et bon, je pense créer des thèmes attachants, ça fait partie de ça.
Oui, ouais, tout à fait, clairement.
Définitivement. On va quitter le Japon pour venir ici à Montréal et tout spécialement à ta personne. Question assez profonde. Bon, t'es compositeur, t'es président, tu gères, tout ça, mais je crois que ton cœur est quand même à la composition. Est-ce que je me trompe?
Mon cœur se déplace de plus en plus. Se déplace beaucoup vers le sound design, mais oui, mon cœur est encore la musique. C'est une autre forme de musique.
Pourquoi avoir d'abord opté pour la composition? Parce que comme tu dis, il y a le sound design, puis il y a quand même aussi d'autres disciplines dans le domaine du son, là.
Oui, il y a d'autres disciplines. Premièrement, j'ai étudié en guitare, dans le fond, au cégep. Donc, c'est sûr que mon premier but, si on veut, en tout cas, en sortant de là, c'était d'être musicien, de pouvoir jouer, d'avoir un groupe. Puis, il y avait beaucoup la notion de devenir musicien pigiste, donc de jouer avec plein de monde. Puis, c'est jamais quelque chose qui m'a beaucoup attiré, dans le fond. J'ai toujours été plus attiré vers la musique originale, donc de composer mes propres trucs. Je trouvais ça le fun, tu sais, la composition c'est un jeu, t'essayes des sonorités, des couleurs, c'est pas bon, t'effaces, tu recommences, ce côté-là créatif, j'avais moins le talent d'être méticuleux, puis d'être, pas d'être méticuleux, mais oui, en même temps, je suis pas quelqu'un qui va pratiquer énormément, tu sais. Donc, j'ai pas cette attention-là à pratiquer à mon... J'ai pratiqué à mon instrument, mais jamais dans le détail.
Plus un gars dans l'improvisation, la création spontanée, plutôt dire très délibéré, je fais mes compositions, j'optimise, ainsi de suite.
Oui, c'est ça. J'ai un gars qui a de la facilité à avoir des idées, à commencer certains trucs. J'ai de la difficulté à les finir. Donc, je ne peux pas être un bon interprète nécessairement dans le sens pur là, de je vais être le meilleur guitariste, par exemple. J'ai pas cette patience-là de pratiquer dans le détail, tu sais. Mais j'aime ça, faire de nouvelles idées puis essayer des trucs. Donc, la création, tu sais, pour moi, c'était vraiment... Ça fonctionnait bien. Puis avec le sound design, c'est exactement la même idée. Puis encore plus dans ce sens où tu peux essayer quelque chose rapidement, qui est concis. Tu n'as pas besoin de passer des jours et des jours sur une toune pour avoir un résultat, tu sais. À l'intérieur d'une demi-heure, des fois, tu peux avoir un résultat. Bon, des fois, ça peut prendre... Ça peut prendre une journée faire un son, des fois, là, ça peut arriver. Puis il faut que tu reviennes le lendemain. Mais des fois, ça peut être super, super vite. Tantôt, avant de m'en venir cet après-midi, je faisais des sons d'attaque. Mais j'en ai fait 6-7. Puis j'ai réussi à faire quelque chose que je trouvais ça le fun. Bon, ça m'a pris 4 heures de temps. Avec ça, je trouve ça cool, ce côté-là. Là, rapidement, là, t'as un résultat.
Justement, parlons-en peut-être de ce boulot de création-là de son. Bon, souvent, dans les clichés de making-of de films, on se cachera pas. On va mettre les trucs les plus intéressants, les plus impressionnants. On voit du monde dans le studio fessé dans des citrouilles avec des haches et ainsi de suite. Ouais. Est-ce que ça ressemble à ça? Parce que l'autre affaire de mon côté, c'est que je vois beaucoup de développeurs indépendants à Montréal. De plus en plus, on va acheter des sons dans des banques de sons. Ouais. Toi, de ton côté, est-ce qu'il y a une volonté vraiment juste de créer de l'original ou des fois, il y a un côté très pragmatique qui t'amène à dire... Non, on va aller sur la banque de sons sur tel site, puis on va d'abord essayer ça, puis ça marche pas, là. Oui, certes, on va créer du stock original.
Je dirais que tous les sound designers utilisent des banques de sons. Ensuite, mais il y a des banques de sons que tu vas acheter, mais il y a des banques de sons que tu vas faire aussi toi-même, tu sais. Fait que c'est rare que tu vas dire... Ben pas c'est rare, mais tu sais, tant qu'enregistrer des sons, souvent tu vas en enregistrer plusieurs, tu vas faire une session, puis tu vas pouvoir réutiliser ce matériel-là. Donc, c'est un peu un mélange des deux. Je dirais, dans les conditions où je suis là en ce moment, j'enregistre moins que je voudrais. Mais comme je te disais tout à l'heure, on finit de construire notre studio pour le retour des fêtes. On va avoir des conditions exceptionnelles d'enregistrement. Fait que c'est sûr que là, je vais enregistrer plus de sources. Mais moi, je suis plus dans l'idée où je trouve ça le fun de faire une journée, par exemple. On a un projet, puis on se dit, on va avoir besoin de sources de tel type de synth, mettons, parce qu'on va avoir besoin de faire du UI pour ça, puis j'aurais besoin de tel type de folie éventuellement. Je trouve ça le fun de prendre la journée pour le faire, plutôt que dans mon workflow, d'aller enregistrer quelque chose, de revenir, de prendre ce son-là, puis de... Je préfère quand je suis dans le moment où je suis dans... Bon, je travaille sur Cubase. Bon, je suis dans Cubase. Je préfère, là, aller chercher mes sources, faire mon son, puis blabla. Faire mes trucs, sortir, bang. J'ai comme moins envie, là, de me retourner, sortir le micro, brancher, juste pour... Je préfère comme séparer les choses. Mais oui, j'achète des banques de son, parce qu'il y a des gars aussi qui... Tu sais, faut pas oublier qu'ils passent leur vie à enregistrer des sons. Fait qu'ils ont, ils ont une expertise, ils ont du matériel, ils ont... Je pense à, mettons, il y a un site qui s'appelle The Recordist.
Oui.
Bon, The Recordist, il enregistre des sources exceptionnelles. Puis des sources qui, des fois... Je veux dire, lui, il est allé dans des mines faire des explosions. J'ai pas le, j'ai pas, on n'a pas le budget de faire ça pour...
As-tu le goût de faire ça?
Ben oui, en quelque part, j'aimerais ça, mais j'aurais besoin, encore là, d'engager quelqu'un pour venir avec nous, pour avoir un spécialiste en explosion, avoir un spécialiste comment qu'on va miker ça, j'en ai aucune idée, tu sais. On peut... Fait que ça vient des fois aider pour la rapidité du travail, ça vient aider aussi pour certaines sources qu'on n'est pas capable d'enregistrer, ou du moins avec les frais qu'on... avec les sous qu'on a pour les productions sur lesquelles on travaille.
Non, pour ça, c'est de l'air... Le budget que tu as demandé pour un projet, hein, dirige un peu qu'est-ce que tu vas faire.
Justement. Ben exactement, tu sais. Puis même, si je me rappelle bien, la conférence que j'avais vue des gars de Bungie, tu sais, quand ils ont fait Destiny, sans des années, ils disaient que c'est la première fois qu'ils sont allés enregistrer des guns.
Ah ouais.
Parce que c'est tellement un gros setup de faire ça. Ça te prend un armurier, ça te prend quelqu'un qui est spécialiste là-dedans. Faut que t'ailles en... Les autres sont allés dans le désert parce qu'il faut que tu puisses essayer des guns, des lance-grenades, etc. C'est pas n'importe où tu peux faire ça. Donc, puis parce qu'avant ça, ils avaient utilisé, dans le fond, des banques de sons de spécialistes. Mais c'est sûr qu'après... Comme sound designer, quand tu prends une banque de son de gun, par exemple, tu prends pas le son, tu le mets dans le jeu, puis ça finit là. Tu prends un bout de ce son-là, un bout de ce son-là, tu mets un million d'effets, tu changes, tu modifies. C'est ça, le sound design, dans le fond, c'est de modifier une source. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup quand même.
Très bien. Sinon, notre affaire qui me fascinait, qu'on n'avait pas tant parlé précédemment, bon, c'était une évidence dans l'entrevue qu'on avait faite avant, mais on se cachera pas, dans un studio style Ubisoft Montréal, il y a beaucoup de boulot spécialisé. Des fois, tu as déjà des compositeurs, tu as des fois des gens qui s'occupent du sound design.
Ouais.
Pourquoi toi, professionnellement, tu n'as pas opté de... Tu n'as pas fait le choix de rentrer dans une boîte, de dire hey, « je vais rentrer chez Ubisoft, je vais avoir mon chèque aux deux semaines, puis bon, je vais avoir une vie bien calme.
Ouais. »
Pourquoi avoir parti une boîte?
Ben, premièrement, j'ai jamais aimé avoir un patron. J'en ai pas eu beaucoup dans ma vie.
T'as des problèmes avec l'autorité, là.
J'ai beaucoup de problèmes avec l'autorité. J'ai énormément de problèmes avec l'autorité. J'aime pas ça me faire dire quoi faire. J'aime pas ça qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi. Bon. Mais au-delà de tout ça, dans le fond, au départ, quand on il y a 5 ans, quand on est parti Pixel Audio, ce qu'on voulait en premier, c'était faire de la musique pour des jeux. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans les boîtes, à part chez Gameloft, il n'y avait pas beaucoup de compositeurs d'engagés. Puis la musique était beaucoup outsourcée. Puis la réflexion, c'était, bon, ils vont chercher beaucoup de gens à Los Angeles ou ailleurs dans le monde, quelques personnes à Montréal. Je pense que ça serait plus... ça serait plus facile en tant que compagnie de faire affaire avec d'autres grosses compagnies pour leur offrir des services de composition, parce qu'on va avoir... notre palette va être plus grande, notre expertise va être plus large aussi. Puis par la force des choses, on a réalisé qu'on ne peut pas juste offrir, dans le fond, de la composition. Il faut qu'on fasse aussi du sound design. Il y a comme plein d'autres choses qui sont venues après. Puis là, finalement, on s'est dit, ah, ben, on va faire un service qui est plus large. C'est là que ça m'a amené aussi à faire du sound design et tout ça. Mais c'est pour ça, dans le fond, que je peux aller dans une boîte. Comme compositeur, il n'y en a pas vraiment chez Ubisoft. Il n'y en a pas chez Warner. Il n'y en a pas chez Eidos. Les gens sont à l'extérieur de tout ça. Fait que ça allait comme de soi. On était comme forcés. Puis en même temps... Je te dis, à cette époque-là, peut-être qu'aujourd'hui, je dirais mieux avec ça. Je suis plus vieux, un peu. En tout cas, un peu. Je suis peut-être plus tard, un peu. Peut-être que je dirais mieux avec l'autorité, mais c'est pas dans mes plans, là, d'avoir un patron.
Non, mais je pense que c'est quelque chose, c'est à connaître dans quel type d'environnement tu performes le mieux aussi en tant que créateur.
Ouais.
Puis je peux voir, particulièrement quand t'es en création musicale, d'avoir un gars qui chope un cigare, qui dit « mais... » Quand ça plus bleu, là. Le client veut que ça soit plus bleu, là. Ça doit être un peu lourd, là.
Oui, ça peut. En même temps, des fois, c'est un peu ça. On discute des fois avec des gens aussi qui ont moins de vocabulaire en musique, mais c'est pas... Ça me dérange moins parce qu'on n'a pas la même position l'un face à l'autre. C'est de la collaboration, puis c'est pas justement... On n'est pas dans une hiérarchie, t'sais.
Je vais plaider coupable pour la lacune de vocabulaire musical. Désolé.
Et je lève la main.
Oui, non, je pense à des rapports que j'ai eu des fois avec des compositeurs et je me sens très mal actuellement.
Ah non, mais non, il faut pas.
Oh là là, c'est pour ça qu'on fait affaire avec des experts.
Oui.
Bon, un fait très intéressant aussi du fait que, bon, il y a à peu près 3 ans, 4 ans, on va pas dire 4 ans, pas trop se vieillir. Bon, on a déjà discuté de ta business, de où est-ce que tu étais professionnellement. Il y a eu du temps que c'est déroulé entre ce moment-là et maintenant. Il y a eu des projets qui sont arrivés, il y a une évolution de compagnie. Donc, il y a eu une évolution quand même de ton côté, j'ose croire.
Oui, ben oui, 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 clairement.
Très positif comme attitude, j'adore.
Oui.
Quels sont les grands piliers de l'évolution de la business de ton côté, ton évolution en tant que professionnel? Qu'est-ce qui a évolué du côté d'Ulrich dans son cœur, dans son esprit?
ce qui est arrivé, premièrement, on est 4 fondateurs d'entreprise, 4 fondateurs, 4 salariés. Au moment où on s'est rencontrés, voilà, 3 ans, 4 ans, on n'était pas tous à temps plein dans l'entreprise. On ne pouvait pas. C'est-à-dire qu'on avait un peu, soit qu'on faisait encore des gigs un peu à l'extérieur, ou il y en avait qui avaient des jobs à temps partiel à l'extérieur. Là, tout le monde est à temps plein. Donc, c'est déjà ça qui est très bon. Donc, on a 4 personnes à temps plein. Là, on ouvre un studio en janvier. Donc, c'est la première fois qu'on va avoir un lieu de travail où tout le monde va pouvoir venir travailler, on va pouvoir discuter. On a développé notre expertise énormément. On a travaillé sur, j'ai envie de dire, entre 10 et 15 projets depuis qu'on s'est parlé.
On veut des noms, Ulrich.
On veut des noms. Bien, évidemment, on a continué à travailler avec Square Enix. Donc, on a fait tous les jeux qui sont sortis de Square Enix Montréal. On continue à travailler avec l'équipe de Thunder Lotus. Donc, on avait fait Jotun à l'époque, j'imagine.
Oui,
oui, déjà. Là, ils ont sorti Sundered à la fin de cet été. On a fait ça.
Ça se pourrait qu'ils travaillent sur d'autres choses actuellement.
Ça se pourrait.
Ça se pourrait.
J'en ai aucune idée. on a travaillé. En fait, il y a des projets sur lesquels on a travaillé et qu'on travaille encore qui sont malheureusement pas sortis. Il y en a un qui ne sortira malheureusement jamais. Ça, c'est très triste. Mais sinon, il y a des jeux qui vont bientôt sortir. On travaille sur Last Year, qui est un projet asymétrique, un jeu d'horreur asymétrique. C'est un projet super intéressant. On travaille sur un projet de VR aussi, de AR, pardon. Donc, j'ai fait une petite erreur. De réalité augmentée, qui est un projet avec Mira Lupa, dans le fond, qui font. Ça s'appelle Necropolis. Ça a été super le fun. On a commencé, plus qu'un an à travailler là-dessus. J'ai allé voir beaucoup de conférences sur le VR et le AR. Ça a occupé une bonne partie de mon esprit aussi dans la dernière année. À savoir, comment qu'on fait de l'audio 360, c'est quoi, tu sais, découvrir tout ça, c'est quoi le binaural, peut-être même les 2 dernières années, mais tout ça, l'ambisonique, tout ça. Donc, on a travaillé, on a fait de la recherche là-dessus. Les autres projets, à brûle pour point.
Justement, peut-être on peut parler justement la VR, l'AR, on a eu des personnes, notamment, les jeux sont faits, on plug encore l'autre podcast, c'est fantastique. Beaucoup de personnes nous ont dit, encore une fois, d'une perspective visuelle. Désolé, je t'agace avec ça.
Non, mais...
D'une perspective visuelle, d'une perspective menu, d'une perspective narrative, le VR et l'AR, c'est vraiment des paradigmes tout à fait différents,
ouais.
Au point que des fois, on se fait dire, tu sais, qu'est-ce que tu as appris précédemment? Là? Oublie-le et recommence à neuf. Est-ce que c'est la même affaire de ton côté? Est-ce que c'est un paradigme vraiment différent?
Oui, c'est différent. C'est pas recommence à neuf parce qu'il y a quand même... Dans le fond, la difficulté en audio, c'est de faire... pour le VR, le VR et la réalité augmentée, c'est d'avoir une sphère de son autour de nous. Il y avait déjà certaines dimensions dans l'audio, évidemment. Là, ce qu'on rajoute, dans le fond, c'est la verticalité.
Mm-hmm.
Puis c'est d'essayer aussi d'avoir une bonne perception de l'audio quand c'est en arrière de toi. Donc oui, ça. Puis c'est les outils qu'on utilise pour ça, qui est l'ambisonique et le binaural, qui ne sont pas des outils nécessairement récents. C'est des techniques qui datent. Même, je pense, l'ambisonique... Je pense que c'est l'ambisonique qui date genre du début du siècle. Il y a des concepts, dans le fond, qui sont là depuis longtemps. Là, c'est juste qu'on se met à les appliquer de façon un petit peu plus intense, plus pointue, parce que justement, il faut décrire toute la sphère au complet, puis pas juste ce qu'on voit en avant de nous. Puis c'est plus important, puis c'est con, parce que dans les jeux, ça aurait toujours été important de savoir qu'est-ce qui est en arrière si tu mets des écouteurs, là, par exemple.
Là. Justement, peut-être l'ambisonique binaural, pourrais-tu résumer ça pour une personne comme moi qui comprend rien au son?
Il y a plusieurs niveaux d'ambisonique, puis chacun de ces niveaux-là ajoute beaucoup de détails, dans le fond, à l'ambisonique. Ce qu'on appelle des degrés, dans le fond. Chacun de ces degrés ajoute des axes, comme X, Y, Z, etc. Ils vont ajouter des axes dans un environnement tridimensionnel. Et chacun de ces axes-là va avoir une donnée audio, donc une coordonnée audio. Et plus tu ajoutes de ces axes-là, dans le fond, plus tu vas définir dans une sphère imaginaire, disons, la figure que ferait l'impact audio d'une source. Donc, si tu as une source dans une pièce qui est projetée, puis en plein milieu, tu as différents axes qui représentent des micros qui captent, mettons, cette source-là. Mais chacun de ces axes-là, dans le fond, va enregistrer une certaine donnée, puis ensuite va pouvoir refaire la map, dans le fond, de cet audio-là. Ça, c'est un peu le concept de l'ambisonique, si on veut. Le concept du minoral, en fait, c'est d'appliquer des filtres pour représenter ce que l'oreille la tête va créer comme filtre naturel sur l'audio. Fait que, par exemple, l'homme d'oreille, c'est là où va se passer beaucoup tout ce qu'il va y avoir comme réverbération du son dans le l'homme. C'est là où on va avoir la verticalité du son. Est-ce que le son vient d'en haut ou d'en bas? Pour ça, d'ailleurs, il y a toujours un test très facile à faire, c'est-à-dire je te fais un geste à la radio, c'est malade. mais tu flippes ton lobe d'oreille vers l'intérieur. Tu fermes les yeux, puis tu demandes à quelqu'un de checker des clés en haut ou en bas, puis tu vas voir que c'est très difficile, en fait, de voir la différence entre les deux. Quand on parle l'homme, dans le fond, c'est là qu'on perd une partie de la verticalité. Puis l'autre chose, c'est l'image que le visage va faire à très courte distance, à la longueur d'un bras. Le visage va faire une espèce de filtre, va couper les hautes fréquences pour une oreille. Ça, c'est une partie de ce que le binaural va faire. Puis au-delà de ça, bien, il y a aussi les réverbérations dans la pièce. Donc là, ici, on a un mur très proche de nous à notre gauche. Donc, on s'en rend pas compte. Mais pourquoi tu le sais que je suis... Tu sais, si tu fermes les yeux, là, tu le sais que je suis en face de toi parce que tes yeux ouverts. Mais si tu fermes les yeux, pourquoi tu le sais que je suis en face de toi? C'est aussi parce que le son de ma voix frappe le mur là, retourne à ton oreille, puis ton cerveau est capable de prendre toutes ces données-là. Fait que là... Le binaural fait une espèce de. Te permet de recréer les filtres, si on veut. L'ambisonique te donne justement plus donner du détail sur la source selon des axes. Puis ensuite de ça, ben c'est ça. Il y a ce qu'on appelle les early reflections, donc les premières réflexions sur les murs, etc., dans une zone de réverbération, en fond, qui peut te donner d'autres données, dans le fond. Donc, tout ça mis ensemble permet de faire de l'audio 3D. Il n'y a malheureusement pas de recette en ce moment. T'sais. Il n'y a pas un workflow prédéfini de dire, comme quand tu fais un son en 5.1, mais c'est pas compliqué. N'importe quel DAW, c'est-à-dire Pro Tools, Live ou Cubase, ils ont tout un setup 5.1. Pour faire du binaural en ce moment, il n'y a pas tout un setup de... Pas de binaural, excuse-moi. Pour faire un setup d'audio 3D, il n'y a pas tout un setup de ça. Il faut que tu ailles prendre un plugin, puis là, ils ne réagissent pas tous de la même façon. Faut pas, tu peux pas tout baker non plus. Il faut que tu puisses utiliser dans les jeux Wise, etc. Donc, c'est un gros casse-tête de comment le faire. Il n'y a pas une solution pour tout. Tout le monde est un peu en train de chercher, dans le fond, là-dessus. Là.
C'est super intéressant parce que, dans ma grande méconnaissance du travail sonore, j'aurais eu le sentiment de dire, on prend un exemple, un engin qui est très bien connu. Unity, quand tu exportes à la fin, on te demande souvent, veux-tu du son 3D?
Ouais.
Donc, j'aurais eu le sentiment qu'effectivement, le oui. problème que tu as dit, c'était réglé. C'est-à-dire, ben, j'ai juste à mettre oui. une source de son en arrière de ma caméra, puis c'est réglé. Mais là, tu es en train de dire, non, il faut que ce soit encore fait à la mi-temps.
Oui, encore fait à la mi-temps. C'est ça, c'est que là, on a des engins qui parlent de son 3D quand ils mettent un son dans un environnement. Moi, je parle de son 360 en termes de ce qu'on peut avoir comme... la représentation du son... C'est un peu dire deux fois la même chose, mais...
Non, mais c'est dans vrai, fond... ça serait de dire par défaut Unity, dans ma vision un peu utopique, ça aurait été ça. Ah, ben clairement, il y a une surface à côté, donc ça va considérer que c'est un mur, et ainsi de suite. Cette étape-là, actuellement, n'est pas couverte par les engins de
jeu. Pas nécessairement. Puis c'est aussi que si tu mets un son 3D, dans le fond, tout ce que ça va faire dans Unity, ça, c'est un son qui va, oui, qui va être positionné sur le listener, mais de la seule façon dont il va être positionné, c'est gauche-droite.
C'est ça, puis c'est son volume, j'imagine, dépendant de la distance.
Oui, son volume, tu vas avoir un effet de distance. Mais prends un son Unity qui est 3D, mets-le en avant, mets-le en arrière de toi, c'est la même chose.
Oui.
Fait que là, aucun moyen de savoir avant arrière, mets-le au-dessus, mets-le en dessous de toi, même chose. À la même distance, on s'entend. Donc déjà là, on a une grosse lacune. Ça veut dire que le seul champ d'information audio possible, c'est en avant de toi, sur un plan unidimensionnel.
Mm-hmm.
C'est là où l'ambisonique puis le binaural rentrent en compte. Puis de jouer avec ces outils-là, puis avec les outils comme Facebook 360 ou peu importe les plugins, c'est là où on peut dire, OK, là, on va le positionner en arrière. Parce que, puis déjà avec Wise aussi, il y a des outils qu'on peut utiliser là-dedans, Auro 3D. Même sans utiliser ça, on peut dire, ben OK, quand tu es en arrière, je vais mettre un filtre sur les hautes fréquences. Parce que oui, le son en arrière de moi, il y a moins d'hautes fréquences que quand tu es en avant, il est moins clair, tu sais. Je fais toujours ça avec mes doigts parce qu'on entend vraiment bien les hautes fréquences, mais tu le vois rapidement. Tu frottes tes doigts en avant, en arrière de toi. Tu le vois que c'est pas le même son. Juste ça, dans Unity, il devrait y avoir... On est rendu là dans nos vies. Là, il devrait y avoir quelque chose pour dire, OK, ben on va faire de l'audio. On va faire de l'audio binaural, donc il va y avoir quelque chose d'appliqué. Mais il y a des... Ça s'en vient, il y a des plugins. Il y a l'Oculus... Qui ont sorti un plugin pour ça. Donc, tu sais, on est vraiment là, on est à l'émergence.
À ton avis, ça devrait tomber dans le cours de qui faire cet outil-là? Ça serait une compagnie qui pousse la VR, notamment?
Ben, c'est un peu ça. Tu vois, Oculus a pris le flambeau. On fait un plugin pour ça. Facebook a acheté une compagnie qui faisait déjà un plugin pour ça. Il y a Auro 3D qui faisait des kits à qui faisaient des kits, là, Surround, etc., qui là, font un plugin. C'est dans la cour à qui? C'est dans la cour à des nouvelles entreprises, en fait, à faire ça. Et c'est sûr que les anciennes vont se lancer là-dedans, mais je pense que là, il y a des nouvelles boîtes. Il y a une boîte à Montréal qui travaille sur un projet vraiment particulier, qui prennent le binaural d'une autre façon que les autres l'ont pris jusqu'à date, avec qui on a déjà discuté... je sais pas ça, leur produit n'est toujours pas sorti. Il était supposé sortir là, quelques mois, mais je pense que c'est ça qu'on va voir. Dans les prochaines années, OK, on va voir des nouvelles entreprises qui vont résoudre cette question-là. Ils vont dire, OK, vous voulez faire de l'audio pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Voici le pipeline que vous devriez faire, que vous devriez prendre. Voici les outils. T'sais.
Là, qu'est-ce que je trouve très intéressant aussi, puis je vais être honnête avec toi, j'ai pas fait beaucoup de réalité augmentée. J'ai eu un petit projet là où on projetait, exemple, des modèles 3D dans du visuel. Encore une fois, on s'est foutu du sonore. Désolé, prends-le pas mal. réalité augmentée, ça doit être tout à fait un autre problème, parce que là, en plus, d'une certaine manière, comme le nom le sous-entend, tu dois représenter la réalité que tu as devant toi, mais ensuite, tu dois injecter des trucs là-dedans. De ton côté, comment tu réfléchis?
Ouais, c'est encore une grosse question. Tu vois, le projet n'est toujours pas sorti. On n'est pas certain de la paire d'écouteurs qui va être utilisée. Ça, c'est con, mais ça va faire une grosse différence quand même, parce que, justement, les gens sont sur les lieux où, en fait, c'est... Les gens vont voir une expérience, mais déjà dans un lieu. Donc, si on rajoute, par exemple, un son, puis on veut rajouter du reverb dans ce son-là, les gens sont dans cette pièce-là. Donc, le reverb doit être vraiment à côté sur où il se situe en ce moment. Fait que oui, tu sais, il y a quand même quelque chose de différent. Puis on s'est demandé beaucoup au début, est-ce qu'on rajoute... Tu sais, d'habitude, on mettrait, par exemple, un room tone ou on mettrait de l'ambiance dans une pièce. Mais là, si on est déjà dans cette pièce-là, on va-tu rajouter un room tone? C'est-tu vraiment nécessaire, tu sais, de... Fait que je dois t'avouer que dépendamment là, de la paire d'écouteurs qu'ils vont utiliser, on va probablement faire certains choix. Ça reste quand même semblable parce que le gros défi, c'est le positionnement. C'est que le joueur, pour lui, ça soit clair que le son, il vient en haut à droite, qu'il vient du speaker-là ou qu'il vient, tu sais, du plafond. Okay. C'est vraiment ça. C'est le positionnement qui est toute la question, dans le fond, de l'audio.
Il y a un aspect considération du son dans l'environnement pendant ce temps-là? pour voir comment ton son doit bien jouer avec le son d'environnement.
Pour nos auditeurs, un cas souvent qu'on voit, une technologie qui est plus courante maintenant, c'est les écouteurs qui coupent le son. Puis essentiellement, ouais. La méthode, c'est qu'on perçoit le son extérieur, on trouve un son pour l'annuler. Cette dimension-là, as-tu à négocier avec ça actuellement? Dire qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, puis toi, tu dois ajuster ton son en conséquence?
Non, mais en même temps, tu vois, ces écouteurs-là fonctionnent bien si tu as un son continu et régulier.
Voilà. Un avion, exemple.
C'est pour ça que ça fonctionne bien dans les avions, puis ça fonctionne bien dans tous les moyens de transport, parce que ce qu'on veut enlever, c'est l'espèce de hum qui est là, en arrière. Mais ça, c'est régulier. Tu peux pas enlever un son qui est un impact. Parce qu'il faut que tu envoies exactement l'inverse, dans le fond, dans l'oreille. Et pour ça, il faut que tu aies le temps de le capter puis de l'envoyer. Donc, des claps, des impacts, les couteaux qui tombent par terre, hein, tu ne pourras jamais les enlever, ça ne fonctionnera pas.
Okay.
Fait que pour nous, ça, c'est pas... Moi, dans mon idéal, j'aurais des écouteurs ouverts, puis il y aurait une portion de l'univers qui est là pour la réalité augmentée, on s'entend. Puis je ferais juste comme rajouter. Ça fait que ça serait une espèce d'hallucination auditive. De la même façon que la réalité augmentée est une hallucination. Tu sais, au contraire de la réalité virtuelle où, là, on ferme.
Mm-hmm.
Tu vois plus rien. La réalité augmentée, tu hallucines des formes, en fait, dans ton environnement. J'aimerais ça qu'au point de vue de l'audio, ça soit la même chose. Que tout reste pareil. Puis qu'on fait juste pour rajouter des trucs ici et là. Puis que tu... À la limite que, tu sais, ça surprenne le joueur. Tu fais, ah, oh, y a-tu quelque chose? Shit, il est là. Tu le sens, là. Il est vraiment là. Parce que t'entends toute la room, t'entends, tu sais, on est ici, il y a de la musique, tout ça, ça reste. Hein,
okay. As-tu vendu des démarches similaires ou actuellement, ça, on est juste pas rendu là? Puis,
Ben oui, on est. Il y a des expériences qui fonctionnent extrêmement bien. Félix et Paul, par exemple, là, à Montréal, on produit des expériences qui sont vraiment intéressantes. Mais c'est puis je me rappelle pas du film exact, là, mais il y a un short film qui a été vraiment, vraiment bien fait aussi là-dessus. T'sais, je pense qu'on se rapproche. C'est juste qu'en ce moment, tout le monde semble peut-être un peu chacun son bord, en train de tester des trucs. Il y a du rassemblement d'informations puis de savoir qui se fait comme au GDC, par exemple. Mais c'est vraiment sporadique. C'est pas comme... Il n'y a pas des curriculums, là, des gens qui sortent, comme qui peuvent sortir de l'école pour devenir compositeur en musique classique. Il n'y a pas des gens qui vont sortir de l'école là, en ce moment qui vont être des pros, genre de l'audio 3D. Parce que il y a trop de questions encore. En même temps, c'est le fun. Là, on est des pionniers, on essaye des choses, on se plante.
Quel beau regard sur la vie. Je propose de prendre une petite pause, Ulrich, oui, et ensuite, on va parler du futur. Nous te voilà de retour, toujours à la table. Ça va bien, Ulrich?
Oui, ça se passe bien.
Oui. Tu bois une bière ce soir. Parle-moi de ta sélection. Parle-moi de l'historique derrière ta sélection.
Wow! Je prends le brasseur
du Vieux Montréal.
Oui. Je bois leur IPA, qui est une IPA somme toute légère. J'avais envie de quelque chose de goûteux. Tu vois, hier, j'ai pris une blonde et une blanche, et puis ça m'a un peu... ça m'a déçu.
Ouais.
Je n'étais pas satisfait. C'est que là, ce soir, je vais prendre une IPA.
Quoi ta relation avec les IPA? Parle-moi de ça.
Dans mon règne, je veux dire... C'est on dirait que je trouve ça weird que ça soit comme devenu l'espèce de hype de tout le monde boit de l'IPA. Puis en même temps, je trouve que c'est vrai, il y a des excellentes IPA, mais je suis pas... Je les aime pas toutes, là. C'est des fois trop amères, non, pas pour moi, là. Puis c'est pour ça, des fois, je suis un peu hésitant. Oh, elle, je la connaissais pas, mais finalement, je n'ai pris une deuxième parce qu'elle était excellente, pas trop amère.
Quel gage de reconnaissance. On va parler du futur. Bon, on a parlé déjà du VR, de la réalité augmentée.
Oui.
C'est quand même un peu le futur.
Oui, oui, oui.
Mettons de ton côté, bon, toi, dans ta vie de tous les jours, tu travailles avec des outils, oui. T'entends parler de technologie, ça s'en vient. Pourrais-tu tracer peut-être un portrait de qu'est-ce que tu crois qui va être le futur de ta profession dans les 4 prochaines années ou 5 prochaines années?
Le futur dans ma profession, wow, at large. Bien, c'est sûr qu'il y a Atmos aussi, je pense qu'il va changer un peu la donne.
Ça consiste en quoi? C'est un standard du côté de Dolby, ça?
C'est un standard du côté de Dolby. En fait, c'est une façon, un peu comme les jeux vidéo voyaient déjà l'audio, c'est object-based.
Okay.
Donc, chacun des objets sonores a une information au lieu d'avoir un fichier baqué avec tous les sons. Puis... Donc, tu peux, c'est un format qui va s'adapter à toutes les configurations, supposément. Donc, 2.0 à leur format qui est 7.4.1. Donc, 7 haut-parleurs autour, 4 au plafond et un subwoofer.
Ça, ça existe-tu encore? C'est une utopie du futur? Est-ce qu'on voit ça dans les cinémas, notamment?
Ben, notre studio, ça va être ça. Les studios Atmos, ça va être ça. Donc, studio de mix, je pense que Audio Kinetic en a deux, je pense, à Montréal. Ubi s'en est fait construire un, si je ne me trompe pas. Puis, on va en voir d'autres de plus en plus. Une configuration qui va être, somme toute, standard. Dans le cinéma, ça va... je ne sais pas si ça va être exactement cette configuration-là, mais ça va être clairement du Atmos qui va s'en venir aussi. Donc, d'avoir justement... En fait, c'est l'idéal. C'est qu'au lieu de faire un mix pour du 5.1 ou du 7.1, qui sont les derniers gros standards, dans le fond, tu fais un mix Atmos dans lequel est inclus tous les standards possibles.
OK, donc tu y vas de ta configuration optimale, puis tu peux aller jusqu'aux deux canaux, donc 2.0 et... Ce système-là prend tout ça en compte, dans le fond?
Exactement. Dans le fond, comme le son n'est pas, c'est pas dit, bon, tu vas jouer en tel et tel haut-parleur, c'est tu vas jouer à tel endroit.
OK.
Puis le décodeur, lui, va dire, ah ben moi, j'ai cette configuration-là d'haut-parleur, donc pour te faire jouer là, je vais te faire jouer un peu dans ce haut-parleur.
Donc le système, on fait la transition à ta place. Au lieu que toi, tu couvres toutes ces configurations-là, le système va s'en occuper.
Ouais, exactement.
OK.
Fait comme on t'habitue dans les engins, dans le fond, tu sais, dans un engin de jeu, tu positionnes un objet, puis il est positionné là. Tu sais, il y a un émetteur sonore qui est à un endroit. Donc, ça c'est sûr. Ça, c'est une portion. Tu sais, ça reste à voir. Là, après, est-ce que chez les consommateurs, est-ce que les gens vont acheter ce type de système-là ou vont grossir leur système 5.1 pour avoir des haut-parleurs au plafond? Mais je sais qu'il y a d'autres options aussi. Là. Il y a des moyens de projeter du son sur les murs ou sur le plafond, comme il va y avoir des comme les barres de son qu'on a en ce moment.
Je voulais pas te faire rouler les yeux, mais il y a beaucoup de barres de son.
Oui.
On va mettre ça actuellement, dire « Ah, t'as juste deux haut-parleurs, mais ça rebondit ces murs,
ouais,
tout fonctionne,
exactement.
Peu importe la salle. »
Oui, exactement. Les barres de son vont être... Il y en a probablement en fait qui peuvent gérer ça, mais justement qui vont tirer au plafond pour donner l'illusion que le son provient de là. Ça, au point de vue consommateur, c'est probablement cette solution-là qui va émerger puis qui va gagner. Je pense pas. Il y a combien de personnes, il y a combien de pourcentages de monde qui ont un système 5.1 même en ce moment?
Mon père, mais ça, c'est une autre histoire.
Non, mais c'est ça. Okay, à part les baby boomers.
Oh, ouais, non, mais j'ai mon père qui est un amoureux de tout ce qui est technique.
Ah, bon.
Oh mon Dieu, il aurait fallu que tu sois là quand il essayait de
libérer
son cinéma maison. Le chat capotait, ma mère n'en pouvait plus. D'ailleurs, je salue ma mère ce soir.
Ah oui.
mais non, effectivement, à part les gens passionnés, t'as une question, j'ai pour toi. L'histoire des barres de son qui projettent des sons sur les murs, ça marche-tu vraiment? J'ai tout le temps été sceptique de ça.
J'en ai jamais testé. Okay. Je ne sais pas. Je me suis fait dire que ça fonctionnait bien quand on était dans certains shows où il y a des vendeurs qui m'en ont parlé.
Mais évidemment,
là,
ils
évidemment.
Vont dire...
Fait que c'est vraiment le seul avis que j'ai. Là,
okay.
J'ai pas d'amis qui en ont. J'ai pas eu la chance d'en tester. C'est ça. En tout cas, si ça passe dans les barres de son, c'est sûr que Atmos, ça va être un gros standard qui va émerger dans les prochaines années puis qu'on va le voir de plus en plus. Sinon, c'est ça, l'audio 360. C'est sûr que ce qui va probablement changer la donne, c'est quand on va faire nos mix en VR. Parce que là, ce qui est le problème, c'est qu'on fait un mix audio. Là, après, il faut que tu ailles dans le jeu, puis que là, tu mettes le casque, puis que là, tu testes, puis que tu fasses comme « Oh shit, finalement, ça marche pas », puis là, tu retournes. Ce qui va être malade, c'est quand on va pouvoir mettre le casque, ouvrir Wyze, par exemple, puis là, tester, mais de façon virtuelle, automatiquement dans l'engin audio, ou même dans Cubase, tu sais, d'être dans Cubase, mais d'être dans l'environnement virtuel, puis de pouvoir tester là, puis...
Pour ces créateurs d'outils-là, actuellement, c'est un marché d'avenir pour eux?
Bien, il y a déjà des solutions qui commencent à être réfléchies et proposées d'avoir des environnements virtuels pour faire du mix. Donc, oui, clairement, ça va le devenir. Puis, on ne sait pas en ce moment. Le VR, tu sais...
C'est là que je trouve ça un peu ingrat, parce que j'ai l'impression, pour que le VR soit adopté, il faut qu'il y ait des bons outils pour bâtir du matériel VR. Mais si la masse critique de VR n'est pas là... Il y a des compagnies qui développent des logiciels comme Cubase. Je peux comprendre que pour eux, c'est des gros investissements. De dire, oh, on va créer un autre environnement de création pour le VR. Si l'intérêt ne semble pas là, c'est
pas intéressant pour eux de développer ça. Là.
Non, mais c'est pour ça que c'est. Il y a beaucoup. En ce moment, tu sais, je pense qu'il y a deux types d'entreprises qui investissent beaucoup là-dedans. C'est des startups, donc des gens qui croient énormément là-dedans, qui vont aller chercher du financement. Puis sinon, c'est des monstres comme Apple puis Facebook qui, eux, c'est pas grave que ça soit pas rentable avant les 10 prochaines années. Mm-hmm. Donc, eux vont continuer à financer ce milieu-là, même si. Il y a 500 000 utilisateurs dans le monde. C'est pas grave. Fait que, d'après moi, ça va rester quand même une bonne avenue. En même temps, c'est le fun. C'est comme ça nous laisse le temps de développer la technologie.
Oui, oui, oui. Et sinon, bon, dans le temps qu'on avait fait notre interview en 2014, tout ce qui était comme audio dynamique, audio procédural, bon, c'était presque rendu une procédure standard. On en est où maintenant avec ça, là?
L'audio procédural, je connais pas grand monde, sérieux, qui font...
Okay. Ben, peut-être la différence entre dynamique et procédural. J'ai peut-être fait l'erreur de débutant de mêler les deux.
C'est quoi la différence entre les deux? Ben, procédural, c'est-à-dire de ne pas avoir de son créé de toutes pièces puis qui vont être générés, soit par... Wise a déjà des systèmes comme ça pour faire des whoosh de balles, par exemple, ou du vent, donc
plus... Mais t'as pas de la musique qui peut être faite de manière...
La musique peut être faite comme ça, en fait. Certaines personnes vont l'utiliser, mais je vois mal le prochain Uncharted, par exemple, dit ça là, de même, mais avoir la musique précise. Je sais que ce qui avait été le plus gros jeu que j'ai vu utiliser ce type de démarche-là, c'est Tomb Raider, je crois le dernier.
Okay.
Ils ont utilisé ça pour faire le système de percussion. Ils ont enregistré comme plein de phrases, puis là, ils ont mis... C'est pas juste... Puis il y a de la musique qui a été générée. Il y a eu un gros travail de fait là-dessus. Honnêtement, pour ce que ça donne au rendu, moi, je suis loin d'être quelqu'un de convaincu pour ça. Puis pourtant...
Parce que l'intention derrière, c'est de dire, oh, on va regarder l'exemple, le mouvement du combat, puis adapter les percussions par rapport au combat.
Oui, puis c'est avoir, en fait, c'est avoir du matériel à l'infini.
OK.
C'est que là, il n'y a pas de phrase finie, si on veut. Donc, tu peux créer à l'infini.
Toi, en termes de résultats, actuellement, t'es pas convaincu. Rendu là, tu dis si on fait du bon dynamique, ça devrait peut-être couvrir toutes ces bases-là.
Ouais, tout à fait. Je préfère enregistrer. Mais puis il y a des expériences vraiment le fun en musique qui se passe. Il y a un professeur à l'université, au Collège Dawson, Sean Bell, si je ne m'abuse, qui a fait 2 ou 3 albums d'électro de musique procédurale. Mais tu vois, il a quand même édité dans le fond sa musique, puis il en a fait finalement un album avec les meilleures versions, puis c'est un travail sur... Lui, il travaille sur les algorithmes, il fait iTunes, il laisse rouler, puis après, bon, il édite ça. Toi, dans ce contexte-là, je trouve que ça marche bien. Dans le contexte d'un jeu où tu le sais pas, en tout cas, je vois pas que ça devienne vraiment un trend...
Okay.
On a encore envie de créer, tu sais, t'enlèves la portion création, tu sais, les gens qui vont faire de la musique, ils ont encore... Ils ont ce désir-là.
Ben, pour moi, ça colle la vision utopique de dire on va avoir de la musique qui va s'adapter à tout type d'action dans le jeu, mais ma compréhension, on peut quand même bien le faire en dynamique. Là,
je pense aussi, le jeu n'est pas infini.
Oui.
Tu joueras pas 4000 heures dans un jeu. Là, si tu en joues 150, c'est bon, tu peux passer à un prochain jeu. Là.
Il y a ça, puis l'autre affaire aussi, c'est assez simple puis peut-être regrettable de ton côté, mais je crois pas que les gens vont nécessairement sentir la différence supplémentaire que le procédural donne versus le dynamique.
Non, en fait, je pense qu'ils vont sentir plus le manque de mélodie forte si on y va avec la musique procédurale. Puis on s'entend, la musique procédurale, ça peut être super intéressant dans certains contextes.
Mm-hmm.
C'est pas quelque chose que tu peux appliquer at large sur tout. Si tu veux créer un thème d'un jeu marquant, utilise pas la musique procédurale.
Non, j'avoue, c'est une recette pour avoir un truc générique, là.
C'est ça. C'est une recette pour avoir de la musique d'ambiance, pour avoir de la musique... Puis encore là, si tu fais ça, ça veut dire qu'il faut que tu utilises des scènes qui roulent en temps réel, par exemple dans Wise. Donc, t'as pas les plus beaux sons de site. T'as pas un beau son d'un beau synth analogue ou de quelque chose. Tu peux pas avoir un vrai violon qui joue ça. T'as beaucoup de contraintes là, quand t'arrives là. C'est ça.
Sinon, sur le front du dynamique, as-tu eu des avancées intéressantes? On est pas mal à la même position qu'on était il y a 4 ans, puis c'est bien correct.
Je pense qu'on était à la même position. On est peut-être à une position où est-ce qu'on peut avoir un peu plus de musique. les machines grossissent, ou en tout cas ont grossi depuis le dernier temps. Les, surtout, on parle du point du PC, il n'y a comme pas de limite. Là. Mm-hmm. C'est ridicule. Là. La grosseur qu'on peut mettre en termes de mémoire là-dessus. Donc, il y a peut-être moins de limites là-dessus. Je pense pas qu'il y ait des systèmes qui révolutionnent. Je pense au GDC, j'étais allé depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. C'est pas là où il y a eu des... Il y a plus eu, disons, de discussions sur justement, OK, dans le VR, qu'est-ce que la musique a fait? Comment qu'on la place? Est-ce qu'on la met en 2.0? Est-ce qu'on la met en 4.0? Est-ce qu'on la met dans l'environnement? Ça, il y a eu plus de réflexions là-dessus.
Okay.
Mais pas nécessairement en termes de dynamique, là. Le système, là, c'est vraiment complexe.
Non, c'est ça. Je pense que ce boom-là est arrivé peut-être avec la génération de consoles précédentes.
Oui,
mais là,
c'est ça. Ouais. C'était comme déjà là. On avait déjà de la place. On avait déjà vu des systèmes de layers complexes puis avoir des systèmes qui étaient au-delà de navigation, combat. Ouais. Puis c'est déjà du monde qui ont fait d'autres choses. Je pense qu'on continue là, à s'inspirer de tout ça. Horizon Zero Dawn, encore une fois, super bel exemple. Mais tu sais, déjà, Shadow of War... C'est ça aussi, c'est des beaux systèmes de musique. C'est... Il y en a tout le temps, mais ils révolutionnent pas non plus le genre.
Sinon, un autre fait intéressant de votre feuille de route, vous avez fait de la console, vous avez fait aussi du mobile. Bon, depuis quelques minutes, on parle beaucoup de trucs de VR, réalité augmentée, console, AAA. Du côté du mobile, y a-t-il des percées intéressantes, des appareils un petit peu moins puissants? Parce que j'imagine, toi, de ton côté, t'avais quand même à vivre avec certaines contraintes.
Mm-hmm. Je te dirais qu'on n'a pas vu tant de changements. Je pense qu'on a toujours... Dans le fond, on a peut-être eu un petit peu plus de place, un petit peu plus de jeux, donc un peu plus de contenu. En termes de contenu qu'on fournissait, tu sais, qu'on a fait pour les jeux mobiles, on l'a pas complexifié. Mais on n'a pas fait de système énormément. On s'en est toujours gardé pour les jeux mobiles qu'on a fait jusqu'à date, du moins à des systèmes assez clairs, pas de layer, pas de couche, ou si des couches, peut-être deux maximum, mais c'est tout. On essaie de pas gober de CPU là-dessus. Ouais. On essaie pas de... Je veux dire, on reste... Puis on a fait des trames sonores sensiblement, évidemment plus courtes, mais sensiblement de la même longueur. Depuis, tu sais, on a... Il y a pas eu énormément de changements là-dessus. C'est vrai qu'on est une couple de générations d'iPhone...
Non, mais je m'aurais attendu à Apple, un très grand héritage, côté musique, côté son, je m'aurais attendu potentiellement à y avoir d'autres personnes intéressantes pour ta boîte à outils.
Ouais, mais pas vraiment. T'sais, on est tellement resté conservateur, en fait, pour le jeu mobile.
Une de mes hypothèses aussi, on va se dire la vérité, la majorité des jeux mobiles, la consommation mobile se passe dans des environnements comme le métro, donc c'est horrible à dire. Puis, je veux dire, c'est quelque chose, je pense, de mon côté.
Ouais.
Moi, je pousse pas trop mon sound design pour mes émissions parce que, merde, ça risque de se faire démolir 50% par le bruit du métro.
Ouais, en même temps, faut comme pas penser à ça. Tu sais, J'avoue que je veux pas penser à ça. Je veux pas savoir les gens utilisent dans quel contexte. Non, parce que moi, les jeux mobiles que j'ai joués, je les ai joués dans tous les contextes.
OK.
Fait que c'est pas vrai.
Tous les contextes?
Ben, tous les contextes.
Merci.
Je veux dire, vraiment, là, j'étais pris dans la mer Rouge, je veux dire, fait attaquer par des pirates, puis j'étais dans le fond de cale, attaché en bas, puis je jouais quand même à mon jeu mobile là. Je veux dire, j'ai joué autant là que pris dans le métro. Je te dis, tous les contextes.
Ton agence de voyage a l'air très cool.
Non, mais je veux dire, autant dans le métro que couché dans le lit, donc dans des endroits super brillants puis pas brillants du tout, j'ai joué à mes... Fait que je sais qu'il y a du monde qui entendront pas ce qu'on fait, mais en même temps, sur les consoles, je sais qu'il y a du monde aussi qui font mieux de sa musique puis qui font jouer un disque en arrière, tu sais. C'est pas pour eux qu'on fait de la musique, c'est pas pour eux qu'on fait des sons.
C'est une philosophie intéressante, effectivement.
On peut comme pas y penser, mais c'est vrai que... On va peut-être penser au fait que, OK, il faut quand même que... Si ce son-là est super important, il faut qu'il ressorte du lot.
Il faut qu'il perce.
Même fait que si y a le message comme quoi le métro est bloqué, il faut quand même que tu entendes que, whoop, là, tu vas mourir. Whoop, là, tu viens de gagner des scènes. Whoop, t'sais.
Donc, tu sous-entends, tu préférais d'avoir un son de ton jeu qui perce par-dessus le message comme quoi que le métro est pris en feu ou...
Oui, exactement. C'est ça que je vous entends.
Quel professionnel, mesdames et messieurs.
Justement, on va parler d'un professionnel, on va parler de toi. Bon, tu travailles beaucoup, c'est ta compagnie.
Mm-hmm.
Entre les enregistrements, on parle d'affaires plus intimes. Exemple, ta copine qui est en musique. Es-tu en musique, toi, de ton côté, dans tes temps libres?
Dans les temps libres, je suis en musique aussi. J'ai un groupe qui s'appelle Burleywood, qu'on vient de lancer le premier album qu'on a lancé au mois de novembre.
OK.
Fait que ça fait un processus de un an, parce qu'on a tous, on est quatre dans le groupe, on a tous du travail dans différents domaines. Puis, on est allé enregistrer au mois de novembre 2016.
OK, donc un an de gestion.
Ouais, un an. Mais en fait, on a enregistré le studio d'un de mes amis, les instruments. En fait, on a fait deux jours là. Ensuite, on a enregistré les voix au courant de l'année, puis là, faire le mix, trouver la place de lancement. En tout cas, toute la poutine autour, puis... On voulait faire un peu de show aussi avant, fait que mon temps libre, c'est pas mal ça. Mon temps libre se résume à ça et Destiny.
OK. Allons-y, quelles sont tes impressions de Destiny 2 à date? Parce que c'est un jeu qui a fait un peu controverse.
Oui, écoute-moi, moi j'étais vraiment satisfait. Je trouve que c'est... En fait, tu sais, Destiny 1... C'était comme un banc de test. C'était comme un early access pour moi. Pour 3A, évidemment, là, early access. Mais quand même, ils ont changé beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de défauts à ce jeu-là. Puis il s'est fait vraiment bâcher. Mais en même temps, il y avait tellement... Puis c'est une compagnie qui a nailé ça fait longtemps. Ouais. Mais le gameplay est exceptionnel.
Oui, tout ce qui est tir, navigation spatiale, tirer grenade, tout ça, ça marche bien.
Ça marche vraiment bien. Puis jouer compétitif, ça marchait vraiment bien déjà ça. Fait que là, il y avait ça. Là, ils nous ont ramené un jeu avec, je trouve, une histoire plus intéressante, avec plus d'endroits à découvrir, un level design exceptionnel comparativement au premier. Donc là, on a des endroits où c'est vraiment le fun de se promener. On n'a pas juste comme des boîtes de corridors plates. Mon Dieu, le level design du premier, c'était un petit peu pénible.
Minimaliste, comme on dit dans le milieu.
Minimaliste. Aïe, aïe, pas beaucoup de réflexion là-dessus. Mais puis c'est toujours un jeu qui la musique est exceptionnelle. Ça sonne à tonnes de briques. Moi, je vais jouer, mettons, les Crucible le soir. Des fois, je vais jouer une demi-heure. Mais juste, même après une journée de sound design, je trouve ça le fun de revenir à ce type de jeu-là. Tantôt, je parlais d'Horizon, c'est la même chose. Horizon, par exemple, par contre, quand j'ai commencé à jouer, j'ai vraiment été un peu fou. Puis là, j'ai joué toute une fin de semaine à côté, 12 heures par jour juste à ça, parce que c'était trop bon. Là. Mais Destiny, c'est plus un peu... des fois, tu reviens, tu as passé la journée à faire de la musique ou des sons, puis c'est comme un gauge, tu sais. T'as fait du UI toute la journée, puis là, tu rentres dans Destiny, puis t'écoutes le UI, puis t'es comme « Ah ouais, OK, ils ont fait ça, cool, t'sais. » Il y a tellement de savoir-faire, là.
C'est un standard d'industrie.
C'est un standard d'industrie, ouais. Là, t'sais. Okay. Puis c'est le fun d'y revenir pour le réécouter, me faire comme « OK, c'est comme ça qu'eux, ils ont fait ça, ah, c'est une bonne idée ou pas. Ah, moi, j'aurais... » T'sais,
ça t'amène à coucher soit heureux de ton travail, soit déprimé. C'est
oui,
fantastique.
Oui, c'est ça. Mais au moins, ça amène une réflexion sur ton travail. C'est toujours... C'est comme mon comparatif. C'est drôle, hein? C'est vraiment un comparatif professionnel. Puis en même temps, je trouve ça le fun. Bouger, tirer, c'est tellement bien fait, là.
Mm-hmm. Comment tu as vécu la controverse des armes? Bon, parce que j'avais entendu dire avant, tu vas avoir des armes aléatoires avec des pouvoirs spéciaux. Là, ils ont standardisé ça pour rendre ça plus équitable pour le mode un joueur contre un joueur. Comment tu vis ça?
Ouais, écoute, moi, je suis content. Oui. Moi, je trouve que c'est une bonne décision. Je trouve que tu es...
Ça dit, en passant, on va donner ton indicatif Twitter tantôt pour les plaintes. Continue.
Non, mais... Oui, OK, bon, c'est pas un jeu parfait. Moi, je trouve ça le fun que si tu pognes un Legendary Weapon, que t'aies pas un autre role, tu sais, que ça soit exactement le même role pour toutes les Legendary Weapons. Ça, moi, ça me dérange pas. C'est sûr que... Puis là, tu vois, j'ai pas encore acheté l'Expansion Pack, mais j'ai joué un petit peu, peut-être une semaine... Alors, en tout cas, dès que l'Expansion Pack était sorti, j'ai joué un Crucible. Puis là, j'ai vu que tout le monde avait un certain gun, je pense un Fusion Rifle, quelque chose comme ça, ou un Energy, leur nouveau gun, là, dans les Crucibles. Puis là, je me faisais vraiment démolir par ça. Puis là, tout le monde joue avec ça. Puis là, c'est sûr qu'ils vont le nerfer, là. C'est sûr qu'ils vont pas le garder de même, ça se peut pas, là. Mais c'était un peu ça aussi avec leur Auto Rifle, tu sais, au début de la saison. C'est ça qui est un peu difficile. T'sais, tout le monde joue avec un auto-rifle ou presque parce que c'est comme le gun de la saison. Puis c'est là où ils ont peut-être de la misère à balancer. T'sais, quand tu joues les crossbows, il y a pas mal souvent un type de gun que...
Non, c'est sûr, si tu standardises, tu fais un standard des armes, c'est sûr que bon, le monde va essayer de trouver le fusil plus optimal.
Oui, c'est ça.
Tandis qu'avant, je pense que l'aléatoire, c'était ben dans ce que j'ai, c'est ça le meilleur. Fait ouais. que je vais avec. Mais d'une perspective compétitive, je vois en quoi c'est pas propre d'avoir un système de même. Là.
Ouais. C'est vrai que c'est ça. Tu vois, il aurait pu juste changer quelque chose pour dire. Parce que là, c'est comme toute une classe d'armes qui surpasse toutes les
ouais.
autres classes.
Oui, voilà.
C'est là où ils se sont peut-être gourés. T'sais, ça aurait dû être. OK, mais tel gun est vraiment fort, tel gun, mais t'as un scout rifle, t'as un...
Dans tel contexte, ta arme est mieux.
C'est ça, tu sais.
Dans le contexte, ton arme paraît mieux.
C'est ça. T'sais, là, si tu veux prendre un power weapon, je veux dire, prends pas un rocket launcher, t'es obligé de prendre une épée. Tout ouais. le monde joue avec des épées, puis il y a une raison, parce que c'est ça qui est efficace. Le rocket mm-hmm. launcher, maintenant, tu tires à côté du gars trois quarts du temps, ça touche personne, c'est... Ouais.
Voilà un autre truc à faire pendant les fêtes, juste ta lettre de plainte avec ta machine.
Oui, c'est ça, avec clic, clic, clic. Dear Bungie. Clic, oui. clic, clic,
cher
clic,
monsieur clic. Bungie.
Oui, c'est ça, cher monsieur Bungie. J'aimerais ça avoir le Galahorn qui était si exceptionnel, mon Dieu.
Oh là 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 là. Bon, les gens t'ont écouté, t'ont peut-être trouvé intéressant, séduisant, touchant.
Mon Dieu.
Est-ce qu'il y a moyen de d'abord peut-être te suivre sur les médias sociaux ou peut-être de suivre même qu'est-ce qui se passe avec Pixel?
Oui, bien, pour Pixel, c'est facile. Sur Facebook, c'est Pixel Audio.
Mm-hmm.
Donc, Twitter aussi, Pixel Audio. Vous pouvez aller voir le site internet, pixelaudio.ca.
Mm-hmm.
Donc, pas .com, .ca. Moi, je suis sur Twitter comme... Et je vois tellement pas souvent, mais je...
Trouble.
Ulrich CT. Donc, okay. Corbeil Trudel, mon nom de famille. Ulrich CT sur Twitter.
À quoi peut-on s'attendre?
Des
tweets de rage sur Bungie.
Des tweets contre Trump.
Ouais,
à quel point ça va mal dans le monde. Oh my God, on va tous mourir. Mais non. Je si je poste, ça va être des photos, des affaires de musique. Là. Tu sais, quand on est en studio, j'aime ça.
Oui.
Tu peux un petit peu filmer, prendre des photos, puis même à ça. C'est malheureusement très rare. C'est mon collègue Eric qui est plus assidu là-dessus.
Quelque chose que je pourrais dire, par exemple, par rapport à votre présence sur les réseaux sociaux, souvent, on sera... en tout cas, par expérience des boîtes qui font des services de votre genre, souvent, c'est rare qu'il y ait du matériel qui sort.
Ouais.
Prenez la peine de temps en temps faire oui. une vidéo pour monter le processus créatif.
Ouais.
Si c'est encore ésotérique pour nos auditrices, nos auditeurs à soir, suivez Pixel Audio sur les médias sociaux.
Oui.
Vous allez avoir un bon aperçu de comment ça marche.
Oui, certainement. Oui, je suis content de cette du matériel qu'on fournit. Oh. Puis ça, c'est justement c'est mon collègue Eric qui s'en charge. Mais c'était dès le départ, on voulait justement pouvoir partager, parler avec les gens, leur montrer c'est quoi le processus, comment qu'on fait ces sons-là, etc. Là. Fait que, mm-hmm. ouais.
Sinon, j'imagine qu'il y a quelques-unes de vos trames sonores qui sont déjà disponibles aussi à l'achat ou gratuitement?
Oui, bien, en fait, il y a Lara Croft Go qui est gratuite, mm-hmm. qui est sur SoundCloud. Sinon, c'est tout. Sinon, c'est en cherchant sur YouTube. Il y a des oui. fans qu'ils ont mis, les compagnies qui sont souvent réticentes, dans le fond, à faire le travail pour les mettre. On est en démarche, en fait, là-dessus, sur des contrats qui s'en viennent, dans le fond, pour... en fait, tous nos prochains jeux qui vont sortir en 2018, on va travailler différemment, dans le fond, avec les compagnies... Je pense à une compagnie avec laquelle on travaille, avec TreeMind ou avec Elastic Games qui fait Last Year aussi. On va plus encadrer pour les trames sonores parce que on voit aussi, on se fait beaucoup écrire sur le site Internet, d'avoir en fait toutes les semaines ou par Facebook, les gens veulent avoir les trames sonores, mais souvent, bon, on a perdu les droits,
ouais.
On n'a pas eu des ententes... qui nous permettait, dans le fond, de gérer ça. Puis les entreprises veulent pas nécessairement prendre le relais là-dessus. Fait qu'on essaie au mieux de nos capacités, là, plus le temps avance, d'encadrer cette portion-là aussi, puis d'aider les entreprises avec lesquelles on travaille, de pouvoir sortir des trames sonores. Ben, je pense que les fans veulent ça. Là. Pas tout le monde, mais je pense qu'il y a une bonne portion des fans qui veulent avoir les trames sonores.
Ben, un gros merci de faire cette démarche-là, de penser à ça, c'est grandement apprécié.
Ben, ça fait plaisir!
Aussi, j'aimerais te remercier pour cet entretien, ça a été très cool.
Ben, merci à toi, Patrick.
Sur ça, bonne fin de soirée!
Ben, bonne fin de soirée à vous! Mmh.
voilà de retour déjà au manoir Tellen. Donc, de mon côté, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que j'ai particulièrement apprécié de cette entrevue-là. C'est vraiment une discussion un peu plus en profondeur sur qu'est-ce qu'est la conception sonore pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Souvent, on parle des visuels, souvent, comme on l'a mentionné, on parle de la communication visuelle, mais très rarement, on parle du son. C'est un aspect assez méconnu. Donc, je suis vraiment content du fait que Ulrich ait pris le temps vraiment de décortiquer quels sont les nouveaux challenges et quels sont les outils pour affronter ces nouveaux paradigmes du jeu vidéo. Sinon, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, souvent, j'aime bien Poutine à deux parce que c'est une opportunité, des fois, de tomber sur des sujets de discussion un peu saugrenus. Saugrenu, on le dit, c'est pas une nouveauté, j'ai quand même une passion de la culture japonaise, le jeu vidéo japonais, tout ce qu'il y a autour. Donc oui, encore une fois, nous avons parlé de l'influence des Japonais sur la musique de jeux vidéo. Je trouve ça particulièrement intéressant parce que Ulrich n'a pas vraiment une base dans le domaine du 8-bit et les débuts du 16-bit. Donc c'était très intéressant d'avoir un peu son angle frais sur le sujet et quand même avoir un type qui est capable de décortiquer la musique, capable de regarder les compositions japonaises et de tirer certaines conclusions. Donc, j'imagine encore une fois, on peut se vendre demain. C'est le type de discussion que nous pouvons avoir que seulement à Poutine 2. Donc, somme toute, je crois que j'ai quand même bien réussi ce challenge que je m'avais fixé au début, c'est-à-dire avoir une entrevue avec Ulrich encore une fois, mais avec un contenu très différent. J'en suis très fier. On va y aller avec les responsabilités de fin d'épisode. Donc, tout d'abord, si c'est votre premier contact avec Poutine 2, il y a plusieurs manières de s'abonner. D'abord, si vous êtes sur le site de Radio Kawa, vous pouvez tout simplement trouver le lien vers le fil RSS de Poutine à 2. Prenez ce lien-là, embarquez ça dans n'importe quel client d'écoute de podcast et vous devriez être en disposition de nous écouter. Sinon, Poutine à 2 est bien évidemment présent sur Apple Podcast. Il n'y a rien de plus simple, cherchez Poutine à 2 et vous allez nous trouver sur cette fantastique plateforme d'Apple. Un autre endroit où est-ce qu'on peut trouver Poutine à 2 est bien évidemment sur les réseaux sociaux. Donc d'abord, vous pouvez chercher Poutine à 2 sur Facebook, mais aussi sur Twitter. L'identifiant est très simple, donc c'est Poutine à 2, mettez ça dans le même pain de texte, enlevez l'accent grave sur le A et vous allez nous découvrir. À quoi peut-on s'attendre? C'est très simple. À chaque fois que nous avons un nouvel épisode, il va être bien évidemment annoncé sur les réseaux sociaux. Non seulement ça, mais dans l'avenir, on aimerait collaborer avec vous pour bâtir la liste de questions, la liste de sujets pour les entrevues de Poutine à deux. Donc, restez à l'affût et vous allez avoir la possibilité de bâtir une meilleure émission avec nous. Et j'aimerais y aller avec les remerciements pour cet épisode-là. Donc, d'abord, un grand merci à Benji Pers pour, encore une fois, l'identité sonore, ma foi, iconique de Poutine à deux. Donc, un gros merci à toi, Benji. Et bien évidemment, parlant d'iconique, j'aimerais aussi bien sûr remercier Julien Brault pour l'identité visuelle de Poutine à 2. Nous recevons beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons commentaires sur notre logo, donc merci à toi Julien. Finalement, dans cette lignée de remerciements, j'aimerais remercier beaucoup de personnes pour cette finale de l'année 2017. Donc, j'aimerais d'abord remercier Radio Kawa, évidemment, qui nous ont fait confiance pour ce nouveau concept d'émission et qui nous ont donné un support incroyable. Comme je viens tout juste de le mentionner, nous devons beaucoup autant l'identité sonore, l'identité visuelle, la promotion. Notre première apparition, d'ailleurs, du côté du magasin de podcast d'Apple, on en est très reconnaissant. Donc, merci à vous, Radio Kawa. Je pense notamment à Yann. Un gros merci à toi. Greg n'est pas là ce soir, mais Greg est une partie importante du processus de Poutine à 2. Bien évidemment, j'aimerais le remercier. Sur une note plus personnelle, j'aimerais bien évidemment remercier ma famille et mes amis qui ont donné soit des retours, soit du support sur Poutine à 2. Donc, un gros merci. Et d'une manière, ma foi, imprévisible, j'aimerais vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices. Vous avez donné des bons commentaires, vous nous avez donné des tapes dans le dos, vous avez donné des fois des points améliorés, ma foi, qui sont très importants. J'aimerais vraiment vous remercier. C'est un plaisir de créer pour vous, c'est un plaisir de bâtir avec vous, donc un grand merci. Donc, comme vous pouvez vous douter, comme vous, les créateurs de podcasts comme nous, ainsi que les créateurs de jeux, comme nous aussi d'une certaine manière, d'ailleurs c'est étrange, nous allons être en congé pour les fêtes. Donc, Poutine à 2 va être en congé pour le prochain épisode, mais nous allons reprendre de plus fort en janvier. Donc, je vous souhaite une excellente période des fêtes. Faites attention à vous, ayez beaucoup de plaisir avec vos familles, vos amis. Commencez cette année 2018 en force. Sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir. Mmh.
Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo ? Jay, Fox, Caféine, Alex le Serveur et Inks le font à chaque numéro d'étolier. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiautent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'étolier, une émission Radio Kawa.
Mais faut quand même faire un peu gaffe aux fautes d'orthographe.
Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux et je vous invite à découvrir Les Pressés de l'Expression. C'est le podcast Travail et langue française. Apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues, à vos clients ou à vos supérieurs. Je vous propose des épisodes courts, réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules. Ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'Académie française, l'avis des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur Radio Kawa.
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus!
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et 4 rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon,
tout est bon dans le Japon.